بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ces programmes sur l'étude des hadiths de la compilation Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux. Avant le mois béni de Ramadan, on s'était arrêté sur le chapitre concernant le yaqin et at-tawakkul, la confiance en Allah et la conviction que le musulman, le croyant, doit avoir en Allah Azza wa Jal. Il nous reste trois hadiths pour compléter le chapitre. Il reste trois hadiths. Ce sont essentiellement des du'as, des invocations qu'il est bon de connaître par cœur. Bon, certains du'as sont un peu plus complexes. C'est des du'as qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. Mais si on peut les mémoriser, ça nous sera très profitable. En fait, c'est la conclusion du chapitre. Et on aurait souhaité conclure avant le Ramadan, mais bon, ça n'était pas possible. Mais ce sont des du'as importants. On commence par le premier hadith de Abi Umar al-Barra bin Azib radiallahu anhu, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا آويت إلى فراشك فقل Prophète عليه الصلاة والسلام enseigne un du'a à Umar al-Barra ibn Azib. Il dit, lorsque tu vas te coucher, إذا آويت إلى فراشك, c'est-à-dire que c'est le dernier moment, lorsque tu vas, on pourrait dire, poser ta tête sur l'oreiller, lis ce du'a. Et donc, quand le prophète عليه الصلاة والسلام enseigne un du'a à un sahaba, et il localise, on pourrait dire, l'espace-temps adapté au du'a, ça veut dire qu'il n'y a pas meilleure formule au monde que celle que le prophète alayhi salatu wassalam enseigne à ses sahaba à cet instant T. Parce que cette parole, elle vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'Allah. C'est-à-dire que le du'a que le prophète a enseigné à Al-Barra bin Azib, il n'y a rien de meilleur dans l'histoire de l'univers pour un mu'min que ce du'a que nous devons essayer de mémoriser et de le lire avant de nous coucher. Quel est ce du'a? Parce que les du'a avant de dormir, il y en a beaucoup. Allahumma bismika amutu wa ahya et plein d'autres du'a. Ce du'a est le suivant. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. Difficile quand même, hein? Wa alja'tu zahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك le du'a s'arrête là. Ensuite le prophète dit, si vous pouvez éteindre le ventilateur, Allah ybarik fik, فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. Après avoir lu ce long du'a, et ce du'a, on a une personne qui inshallah va le traduire en français et sous format PDF, et on pourra l'avoir sur le portable. Comme c'est un du'a difficile, mais si on l'enregistre dans le fichier, avant de dormir, tac, vous vérifiez, enfin, au lieu de vérifier les notifications, Facebook, vous regardez ce du'a, vous lisez, mais ça doit être vraiment le dernier du'a avant de dormir. Et le prophète m'explique donc à ce sahaba, « فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَ » Si tu meurs ce soir-là, c'est-à-dire après avoir lu ce du'a, ben tu meurs sur l'inéité, sur le droit chemin. Parce que ce du'a renferme des formules de istislam, de yaqin, de tawakkul et de iman. Quand le prophète dit Allahumma aslam tu nafsi ilayk et wa wajjah tu wajhi ilayk, je m'oriente vers toi et je me soumets à toi. Ça c'est le sens même du muslim, celui qui s'est soumis totalement à Allah Azza wa Jal. Wa fawwadtu amri ilayk. Fawwadtu amri ilayk, le sens approximatif c'est tout ce qui me concerne, ya Allah, je mets entre tes mains. N'est-ce pas là une belle formule qui montre la conviction en Allah, cette conviction que tout ce qui peut me concerner de bien ou de mal, quels que soient les problèmes, les difficultés, ya Allah, je mets tout entre tes mains. C'est toi mon Seigneur et c'est toi qui apportes la solution. Rahbatan wa rahbatan ilayk, je le fais avec motivation et en même temps avec crainte et espoir. Voilà, c'est mieux. Avec crainte et espoir en toi, c'est ça la croyance du musulman. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Cette formule montre vraiment que l'issue, l'ouverture, la nusrat, l'aide, elle ne peut provenir que d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'avant de se coucher, le mu'min, il vous arrive parfois, vous vous couchez le soir avec des soucis de la journée, des problèmes auxquels on n'a pas trouvé la solution, des problèmes non résolus. Mais il ne faut pas dormir stressé. Au lieu de prendre un Streptazam, ou alors au lieu de prendre un Stilnox, ou au lieu de prendre un Lexomil, j'en connais des médicaments, Allah nous protège. Allah protège jamais qu'on ait à prendre ces médicaments qui créent des dépendances. Au lieu de prendre des médicaments qui va déstresser pour bien dormir, cette formule, elle montre vraiment que quels que soient les problèmes qu'il y a aujourd'hui, quelle que soit ma situation, j'ai des dettes, j'ai des problèmes, quelle que soit la nature des ibtilas, des épreuves, il y a Allah, tout ça c'est toi qui envoie et tout ça c'est toi qui gères. Et de cette façon, le mu'min, il dort avec un apaisement du cœur. C'est pas qu'il fait l'autruche, attention, hein. C'est pas que quelqu'un a plein de problèmes, il dit Allah va régler. Non, 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 non. Il fait des efforts, il fait tout ce qu'il peut pour solutionner les problèmes, amener les asbab, mais en finalité, il sait que tout est dans les mains d'Allah. S'il a réussi à faire quelque chose aujourd'hui, il a pu avancer, c'est grâce à Allah. S'il n'a pas pu avancer, c'est ce qu'Allah avait décidé. De cette façon, le croyant, quand il s'endort avec une certaine quiétude. Et là, ensuite, il y a, parce qu'on avait dit qu'il y a une partie de iman, où il dit, Amantu bi kitabik alladhi anzalta, ya Allah, j'apporte foi sur les livres, sur le livre que tu as envoyé, wa nabiyyak alladhi arsalta, et le prophète, les prophètes que tu as envoyés. Donc, comme très souvent nos parents, ils nous disaient « lis calmement avant de dormir ». Ils nous disent ça, non ? C'est-à-dire, relis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul » avant de dormir. Il faut que le mu'min dort en lisant « la ilaha illallah ». Parce que la mort, le sommeil, c'est comme une petite mort. Pour ça, on dit « Allahumma bismika amutu ». Lorsqu'on se couche et qu'on dit « Allahumma bismika ya Allah » par ton nom, « amutu », je meurs, « wa ahya » et je reviens à la vie, avec ta permission. Parce que la mort, c'est l'âme qui quitte le corps. C'est un échantillon. Alors, j'ai dit la mort. C'est l'absurde, je vais aller directement au but. Le sommeil. Le sommeil, c'est un échantillon de la mort. Où l'âme quitte le corps et l'âme se sépare donc du corps. C'est pour ça qu'on dit « Allahumma bismika amutu wa ahya ». Et donc, du coup, avant, et quand une personne lit ce doua, personne n'a la garantie de se réveiller le matin. Il y a plein de gens qui meurent de leur sommeil. C'est-à-dire que quand tu te couches, tu ne sais même pas si demain tu seras là. Est-ce que tu vas ouvrir tes yeux? Est-ce que tu as encore une journée? Donc le croyant, il place sa confiance en Allah. Ensuite, il renouvelle son iman. Croire en Allah, croire au livre et croire au prophète. Et donc, ça me dit que si tu meurs après avoir lu ce doua dans la nuit, mita al-fitra, wa in asbahta, asbahta khayra. Et si tu te réveilles le matin, ben, tu te réveilles avec le bien. Khayra, tu te réveilles de la meilleure des façons et avec un khayr, avec un bien. C'est-à-dire que la journée qui va démarrer, inshallah, le lendemain, ce sera une journée de khayr, une journée, inshallah, qui aura la bénédiction, qui t'apportera le khayr et la baraka, hadith de Al-Bukhari et Al-Muslim. En commentaire, le muhadithin explique que la première chose que le prophète m'a enseigné à ce sahaba, en regroupant, là on regroupe les différents hadiths qui vont dans le même sens, il dit que le prophète l'avait enseigné également un yattaji'a ala al-jamb al-ayman, que lorsqu'il se couche, qu'il se couche du côté droit. Qui peut me dire pourquoi il est important de se coucher du côté droit?
Scientifiquement.
Il y a deux raisons, une raison scientifique et une raison spirituelle.
Penser à la mort.
La raison scientifique, c'est que si tu te couches sur le côté gauche, il y a une pression sur le cœur. Et c'est mauvais pour le cœur. Si on se couche sur le ventre, c'est pire encore. Et le prophète a été dit au mu'min de se coucher sur le ventre. Une fois, le prophète a vu un sahaba qui était allongé sur le ventre de la masjid et il l'a réveillé avec son pied. Il l'a touché avec son pied. Et le sahaba, il peut se poser la question, mais ça a l'air d'être un peu violent. Parce que ça, c'est la position des gens de l'enfer qu'Allah nous protège. Donc, si on voit une personne dans la mosquée ou ailleurs, même chez nous, qui dort sur le ventre, il faut le réveiller. Non, ne dort pas sur le ventre. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Et là, la position la plus adaptée, sahiyan, pour la santé, c'est de se coucher sur le côté droit. Demandez aux personnes qui dorment avec des masques, avec des... Comment on appelle ça? Subhanallah. Ah, les appareils pour les gens qui font des apnées de sommeil. Vous savez c'est quoi les apnées de sommeil? Il y a des gens qui, pendant leur sommeil, ils ne respirent plus. On fait tous des apnées de sommeil. Mais quand c'est trop fréquent, c'est dangereux. Le cerveau n'est plus irrigué. Et je discutais avec une personne qui fait, subhanallah, beaucoup d'apnées de sommeil. Il m'a dit qu'il a fait un test avec un allergologue. Toute la nuit, il y a un appareil branché pour voir la fréquence des apnées de sommeil. Il dit qu'on voit très clairement qu'en début, quand il est sur le côté droit, il y a zéro apnée de sommeil. C'est lorsqu'il va se mettre sur le dos, ou sur le côté gauche, parce que quand on dort, on bouge parfois. Ou quand il change de position, les apnées deviennent de plus en plus fréquentes. Mais quand il se redresse, il se remet du côté droit, il n'y a plus d'apnée de sommeil. Ça, bah, ça nous montre la hikmah dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur, si vous voulez que votre cœur reste en bonne santé, dormez du côté droit. Et puis sur le plan spirituel, un cœur qui est, lorsque vous êtes du côté droit, comme il n'y a pas de pression sur le cœur, c'est un cœur qui est plus vivant, plus frais, et le réveil pour la salat de Fajr sera plus facile. Plutôt qu'un cœur qui est compressé, ce cœur aura du mal à se remettre en marche et à se réveiller pour la salat ou pour n'importe quelle autre chose. Le sommeil sera plus lourd. En commentaire, les muhaddithin disent également que le prophète alayhi salat wa salam avait enseigné d'autres adhkars avant de dormir. Parmi les adhkar, le fait de lire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Aïcha radiallahu anha était venue voir, non, Fatima radiallahu anha était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulait que son père lui donne la possibilité d'avoir quelqu'un à son service pour les tâches quotidiennes parce qu'elle était épuisée. Ça, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne vivait pas comme une princesse, loin de là. Si le prince même voulait les biens de ce dunya, il claquerait des doigts, il aurait tout ce qu'un être humain peut souhaiter. Et donc Fatima se plaint pour le prince même qu'elle doit s'occuper de la maison, faire le pain, s'occuper des enfants. Et elle aurait besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider. Et elle savait que son père pouvait donner l'ordre à une personne d'aller lui donner, lui prêter main forte. Et là le prince m'a dit que je vais t'enseigner quelque chose qui te sera plus utile qu'un khadim, que quelqu'un à ton service. Avant de te coucher, lis subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, comme on le dit, 33 et 34, et tu obtiendras l'aide d'Allah dans tout ce que tu fais. Et cette aide, ce n'est pas uniquement une aide spirituelle, c'est même dans les tâches du quotidien. Allah te couvre de ça, de la baraka. Il y aura une bénédiction et on pourra accomplir ce qu'on a à faire de la meilleure des façons sans ressentir la fatigue physique. Donc dans le tasbih, on appelle ça très souvent le tasbih Fatimi, c'est pour la fatigue physique. Et dans le doua, le grand doua compliqué là, c'est pour la fatigue psychologique. Afin qu'en se couchant, on a tout remis dans les mains d'Allah, on sait que c'est Allah qui va solutionner nos problèmes. Donc en conclusion, les muhadithin disent « أَنْ يَجْعَلَهُنَّ آخِرَ مَا يَقُولُ » Faites en sorte que ce dhikr, ce doua, soit la dernière chose que vous lisez avant de fermer les yeux. Inch'Allah, la semaine prochaine, j'essaie de vous ramener ça au format PDF sur les portables. Et Inch'Allah, ça nous sera tous profitable. On continue avec un deuxième hadith. Là, c'est pas un doua, mais c'est, en fait, ce hadith, aurait dû le mettre, en début du chapitre. Lorsqu'on avait vu les prophètes, comment est-ce qu'ils avaient confiance en Allah, vous rappelez, on avait vu l'histoire de Yunus alayhi salam avec la baleine et l'histoire d'Ibrahim. Ça remonte, ça fait plusieurs mois. Et là, l'avant-dernier hadith, le mu'allif, il conclut avec l'histoire de la grotte de Hira, lors du Hijra, lors de l'immigration. Dans ce long hadith, on retient la partie qui nous intéresse. Abu Bakr radiallahu anhu était avec le prophète alayhi salat wa salam dans la grotte. Navartu ila aqdam il mushrikin la wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulallah, law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Faqal alayhi salat wa salam, ma dhannuka ya Aba Bakr bithnayni Allahu thalithuhuma. C'est la scène où Abu Bakr avec le prophète alayhi salat wa salam avait trouvé refuge de la grotte de Thawr. On a dit Hira tout à l'heure, de la grotte de Thawr pendant 2 jours ou 3 nuits plutôt, afin de se cacher, parce qu'il y avait les Quraysh qui recherchaient intensément Abu Bakr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient donné comme récompense 200 chameaux à celui qui trouve Abu Bakr al-Siddiq et le prophète alayhi salat wa salam. Et 200 chameaux, et pour Abu Bakr al-Siddiq, 100 chameaux. Donc les gens, énormément de personnes s'étaient mis à leur recherche, et là nous voyons l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le but c'est pas d'aller très vite, parce qu'il y aura peut-être des cavaliers plus rapides. Il y aura peut-être des gens qui auront des montures plus rapides. Peut-être qu'ils ont une demi-journée d'avance, mais si de l'autre côté il y a des cavaliers et des chevaux extrêmement rapides, ils auront vite fait de les rattraper. Et l'intelligent du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de rester caché 3 nuits dans la grotte. Pourquoi 3 nuits? Parce qu'au bout de 3 nuits, les personnes ils ont déjà fait un périmètre de 500 km autour de Makka. Pour eux, c'est plus possible. Et un désert, on voit les gens à perte de vue. Et s'il y a des chevaux, ça fait de la fait de la poussière. Donc, 3 jours et 3 nuits, les Quraysh ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ben, logiquement, ils abandonnent, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés à Madina. Alors qu'ils étaient cachés aux frontières de Mecca, à la grotte de Thawr, et après 3 jours, le prophète est descendu avec Abou Bakr, il a repris le chemin. Avant de voir la partie qui nous intéresse, il y a une leçon à retenir. Il y a at-tawakkul, la confiance en Allah, mais il y a également akhdhul asbab, le fait d'apporter, le fait d'agir, de trouver les bons intermédiaires, de réfléchir, d'essayer d'agir, et ensuite on met sa confiance en Allah. Parce qu'il y a 2 extrêmes. Il y a l'extrême, la personne qui ne fait pas confiance en Allah, il fait confiance en ses biens, en ses contacts, en ses diplômes, enfin, tous les moyens du dunya, ben, il se base uniquement là-dessus. Ça, c'est un extrême, ça, c'est la pire des choses. On a de l'autre côté la personne qui dit, moi, je fais confiance en Allah, mais il ne fait aucun effort. C'est une personne, après, qui dit, moi, je fais tawakkul à Allah, et Allah va me nourrir comme les oiseaux qui reviennent. Hadith qu'on avait vu au mois de Sha'ban. Comme les oiseaux qui quittent leur nid, le ventre vide, qui reviennent le ventre plein. Donc là, il reste assis dans la masjid, ou il reste assis dans la rue, l'oril est haut, l'oril est bas, au choix, et il attend que son risque arrive. Ben, c'est pas en restant dans la rue ni les hauts ni les bas que le poulet va rentrer dans le frigidaire et que le riz va pousser dans la cour. Ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, la métaphore du hadith, ces oiseaux-là, vous rappelez l'explication? Ces oiseaux, ils sortent et ils reviennent. Il y a eu un effort. Ils sont partis à la recherche, ils ont volé, ils sont partis chasser ou récupérer des graines ou leurs proies et ils reviennent. Il y a l'effort et il y a le fait qu'Allah est raziq. Pareil pour l'être humain. Il y a la confiance en Allah, mais il y a également al-asbab, les actions, les actes que nous devons accomplir. Donc pour revenir, le Abou Bakr témoigne. Il dit que lorsque les mouchriquins étaient arrivés près de la grotte, on voyait leurs pieds. Comme une grotte, ils étaient un peu enclavés, ils étaient dans un endroit un peu inférieur, et ils voyaient les polythéistes qui s'étaient approchés. Dans certaines sources, on parle même d'une personne qui s'est mise à uriner sur les parois de la grotte. Ce qui prouve qu'ils ne savaient pas que le prophète était là avec Abou Bakr. Et à cet instant, Allah les a aveuglés. Allah les a empêchés de voir ou de se baisser, de se rendre compte qu'il y a 2 personnes qui sont cachées. Et lorsqu'Abou Bakr éprouvait cette crainte, et il a manifesté sa peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la peur pas pour lui, mais comme on avait expliqué, Abou Bakr avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mission pendant ce voyage, c'était de protéger le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais pensez-vous que le prophète sallallahu avait besoin d'un protecteur? Le prophète n'avait nullement besoin d'un protecteur. Et il a dit très clairement à Abou Bakr, avec une quiétude, une tranquillité, et c'est là qu'on voit les vrais. C'est là qu'on voit ceux qui ont confiance en Allah. Lorsque le danger est à quelques centimètres et que malgré ça, tu restes ferme. Tu restes convaincu que tout est dans les mains d'Allah. Rien ne peut nous arriver sans l'ordre d'Allah. Et là, le prophète me dit tranquillement à Abou Bakr, « Oh Abou Bakr, que penses-tu de 2 personnes qui ont avec eux Allah comme troisième, comme celui qui les accompagne ?» Traduction approximative, « Oh Abou Bakr, nous sommes 2. Mais n'oublie jamais que celui qui est avec nous, c'est Allah. » Et donc, si Allah est avec nous, rien ne peut nous arriver. Alors que si on analyse la situation, si on fait une analyse, je ne sais pas moi, comme les policiers le font, situation de crise ou de danger, ben, il n'y avait pas plus gros danger que ça. C'était vraiment une situation extrême où ils pouvaient être repérés à n'importe quel moment. Mais le prophète montre à Abou Bakr que quand Allah est avec nous, personne ne peut nous faire du tort. Donc ça, c'est un exemple de confiance en Allah dans une situation de crise, dans une situation extrême, comme c'était le cas pour les autres prophètes. En commentaire, les savants disent également, vous voyez, la place de Abou Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Parce que Abou Bakr a été mentionné de Coran à travers le verset La tahzan inna Allaha ma'ana. Il a été cité dans ce verset, Thani athnaini idhuma fil ghar. Et jusqu'au Qiyama, nous continuerons à lire les versets qui témoignent du fait qu'Abou Bakr était avec le prophète alayhi salatu wasalam de la grotte. Allah a choisi une personne pour être avec le prophète sallam durant cette étape essentielle qui est Al-Hijra, et cette histoire, cette anecdote est mentionnée dans le Coran. Ça prouve bien qu'Abou Bakr al-Siddiq était la personne qui avait le plus de valeur auprès d'Allah pour être donc le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète avait annoncé qu'Abou Bakr fera partie des premières personnes qui accéderont au paradis après lui, et il sera appelé par les huit portes du Jannah, du paradis. On conclut avec un autre hadith cette fois-ci de... Allez, on va aller direct le matin. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته لونا un autre موقف, une autre situation. Tout à l'heure, c'était avant de se coucher. Là, c'est lorsque le prophète sallam quittait sa maison. C'est-à-dire, ce sont des situations que nous vivons tout le temps. Et vous voyez toute la facilité, la simplicité de l'enseignement prophétique. Ce n'est pas des doigts qu'il faut lire des occasions très rares ou très compliquées ou des cas de figure que nous allons peut-être jamais vivre. Non. Avant de te coucher, lis ce doigt. Il y a la baraka dedans. Avant de quitter ta maison, que ce soit pour venir à la masjid, que ce soit pour aller faire tes courses, quel que soit le motif de ta sortie, lis ce doua. Le prophète avait l'habitude de lire quand il a kharaja min baytihi qala bismillah, ça c'est plutôt facile, tawakkaltu ala Allah, par le nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, Allahumma inni a'oud bika an adilla ou udall, ou azalla ou uzal, ou azlima ou uzlam, ou ajhala ou yujhal alayya. Hadith rapporté par Abu Daoud. Donc, quand le prophète sortait de sa maison, il sortait avec le nom d'Allah, il plaçait sa confiance en Allah, et ensuite, il lisait ses doigts. Il demandait protection. An adilla ou udall. Alors, on retrouve le sens. Alors, avant de démarrer le commentaire, le muhadithin disent que quand une personne sort de sa maison, ben, la personne ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut lui arriver. Il peut arriver un accident, il peut arriver que la personne soit agressée, ou alors que lui-même provoque un accident. Que, surtout de nos jours avec les voitures, on peut renverser une personne. Soit vous êtes opprimé, soit vous opprimez quelqu'un. Soit vous égarez du droit chemin, ou quelqu'un vous égare. Donc, toutes ces situations, contre toutes ces situations, voilà donc le doua enseigné par le prophète sallam. Minaz zalali wal khata an adil, que le prophète sallam dit que, qu'Allah me protège contre les erreurs, contre n'importe quel type d'erreur. Ou uzal ay ahadun, yatawassalu li fi'l al-khata. Le premier cas de figure, c'est que je me trompe moi-même, je fais des erreurs, ou alors quelqu'un m'induit en erreur. Adlim ou udlam, que je fais du mal à quelqu'un d'autre, ou udlam, ou que quelqu'un me fait du mal. Ajhal, que j'ai une décision, que je prends une décision qui est une décision d'ignorant, une décision qui est contraire au bon sens, ou alors que quelqu'un prenne des décisions qui vont à l'encontre de bon sens, c'est-à-dire quelqu'un a une mauvaise opinion de moi ou me juge d'une mauvaise façon, me fait des problèmes ou fait oppression sur moi, c'est-à-dire tous les cas de figure, que je sois acteur ou que je subisse. Donc le prophète avait l'habitude de lire ce doua également, et si on le lit avec conviction, inshallah, il ne nous arrivera rien. À partir du moment où on quitte notre maison, on reste sous la protection d'Allah. Et dernier hadith, hadith d'Abu Daoud et Tirmidhi et Nasa'i, de lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne un autre doua qu'il lisait en sortant de chez lui, bismillah tawakkaltu ala Allah, ça c'est beaucoup plus facile, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Là on a la version la plus simple, sortir en invoquant le nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, on place notre confiance en Allah et on affirme que personne ne peut faire quoi que ce soit, aucune force, aucune puissance en dehors d'Allah. Et lorsque le mu'min, on pourrait peut-être commencer par ce palier, un doua qu'on mémorise, après peut-être voir les doua un peu plus complexes. Le prophète dit que celui qui lit ce doua en sortant de sa maison, on lui annonce sa bonne nouvelle, hudita wa kufita wa wuqita. Elle dit que tu as eu la guidée, tu as demandé et tu as eu hudita, tu as eu la guidée et tu as ce qui te suffit et tu as eu la protection, la garantie de protection par rapport à ce que tu as demandé. Et dans une autre version, lorsque Shaitan entend un croyant lire ce doua avant en quittant sa maison, Shaitan dit aux autres Shayatin qui essaient de l'induire en erreur ou de lui faire des problèmes, كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Comment pensez-vous pouvoir atteindre un homme, une personne qui a été bien guidée et à qui la protection a été promise et à qui la protection est al-kifaya, Allah la suffit et la protégée contre toute mauvaise chose. C'est-à-dire que sur cette personne, on ne pourra jamais agir. Et si on lit ce doua, on a espoir également que parmi les égarements, les péchés, en rapport avec le radd al-basar, en rapport avec le regard, on peut avoir espoir que Allah nous protégera aussi des situations où on risque de commettre le zina par le regard ou de laisser ses yeux admirer ou regarder ce qu'on n'a pas le droit de voir. Il y a tout type d'égarement, tout type d'erreur. Si on lit ce doua avec conviction et avec ça, bien sûr, on fait des efforts, Inch'Allah, nous serons protégés contre non seulement les dangers mais également les Fitna, les tentations. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et avec ça, alhamdulillah, on complète le chapitre sur al-yaqin wa tawakkul. Et lundi prochain, on va, inshallah, démarrer le chapitre sur al-istiqama, le fait de rester ferme dans la religion et dans la pratique. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.